au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jacques Pogam.
Bonjour, notre invité est aujourd'hui l'historien et romancier Max Gallo, dont je rappelle qu'il a été reçu à l'Académie française le 31 janvier 2008, et dont je rappelle également qu'il a fait l'objet sur Canal Académie d'un portrait dans notre série L'Essentiel. Max Gallo qui vient de publier chez Ixo un livre intitulé 1940, de l'abîme à l'espérance, un récit nourri de faits, de discours, de déclarations, de confidences, un récit qui permet de vivre de l'intérieur une année capitale, mais aussi étrange, et qui en dit plus sur la nature des hommes et leur histoire que bien des traités de philosophie et de morale. D'autant que ce livre est écrit avec une très grande sobriété d'expression, ce qui ne fait qu'en renforcer l'impact. Max Gallo semblant s'être inspiré de cette maxime d'un grand homme de presse, Axel Gantz, « Tout mot inutile est un mot volé au lecteur ». Max Gallo, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Le 1er janvier 1940, la France est théoriquement en guerre. La France et l'Angleterre ayant déclaré la guerre à l'Allemagne le 3 septembre 1939, après l'invasion le 1er septembre de la Pologne par Hitler. Mais il ne se passe pratiquement rien. La France, dites-vous, est d'autant plus en position d'attente qu'elle a au fond été profondément marquée, blessée par les 26 années qu'elle vient de vivre.
Oui, je crois qu'on ne peut comprendre cette année 40 que si on parcourt le chemin, je dirais, d'une guerre à l'autre, en commençant par cet abîme qui est une fosse, je dirais, fosse commune, puisque la France a payé sa victoire, peut-être une victoire à la Pyrrhus d'ailleurs, sa victoire de 1918, par au moins 1,3 million morts, plus de 2 millions de blessés, de gueules cassées, d'asphyxiés, de gens qui sont amputés. Je crois que tout enfant, ce qui était mon cas de cette période, sait qu'il se souvient qu'il a vu autour de lui des gens mutilés, soit le bras coupé, et encore quand je faisais mes études à la Sorbonne, Pierre Renouvin avait un bras en moins, des doigts coupés à l'autre main. Autrement dit, la guerre de 14 et cet aspect, osons employer le mot, que j'ai déjà employé plusieurs fois d'ailleurs dans le livre, boucherie, est très présent, ce qui explique que le pacifisme est une force très importante. Les Français sont pacifistes. Ils ne veulent pas qu'une nouvelle guerre, guerre mondiale, viennent à nouveau creuser des deuils dans la société et dans leur famille. Et cela compte beaucoup pour expliquer le climat dans lequel on se trouve, avec une nuance néanmoins qu'il faut tout de suite introduire, c'est que après que Hitler ait envahi la Pologne, on lui a déclaré la guerre, comme vous l'avez rappelé justement, le 3 septembre 1939, il y a eu bien d'autres événements qui ont montré la détermination des Allemands, des nazis ou de Hitler en tout cas, à se lancer dans la guerre, c'est-à-dire que la guerre est acceptée. On est pacifiste, mais la guerre paraît inéluctable. Et en même temps, on est dans une drôle de période qu'on a appelée la drôle de guerre, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit là encore, les communiqués du ministère de la guerre se bornent à quelques lignes, activité de patrouille sur le front, activité de commando, et on parle davantage du théâtre aux armées, des prestations de Maurice Chevalier dans le théâtre aux armées, qui chante « Nous sommes français », etc., tous français, et que de véritablement la guerre, avec cette particularité, c'est que pendant la campagne de Pologne, qui a été très brève, une blitzkrieg, une guerre éclair, les Français, alors que les Allemands le craignaient, les Français et les Anglais, puisque nous sommes alliés, qu'il y a des troupes anglaises en France, les Français et les Anglais n'ont pas ouvert un second front. Il y avait un front à l'ouest, pendant que les Allemands avaient toutes leurs divisions en Pologne. Et donc, on est bien dans une drôle de guerre qui conduira, pour reprendre le titre célèbre de Marc Bloch, à une étrange défaite.
Alors, vous parlez de cette drôle de guerre, mais vous insistez sur la fragilité politique. Et effectivement, en mars 1940, il y a un nouveau gouvernement, mais qui est marqué par l'opposition entre un président du Conseil qui s'appelle Paul Reynaud et son ministre de la Défense, Édouard Daladier. Et ces deux-là ne tirent pas du tout dans le même sens.
Non, parce que la France va découvrir, si elle ne le sait déjà, la faiblesse de ces institutions, la faiblesse de l'exécutif. Nous sommes dans un régime parlementaire où les gouvernements se sont succédés, un régime parfois avec une fréquence très rapide, 3 mois, 3 heures, 3 jours. Et donc l'exécutif est très faible. Cet exécutif, il est, comme vous l'avez dit, traversé par des rivalités, Daladier, Reynaud, derrière Daladier qui est ministre de la guerre, l'état-major, le général Gamelin, des officiers, disons un mot de cet aspect-là, ça nous évitera peut-être de le redire, des officiers qui sont des vieillards chenus, pourrait-on dire, puisque je vais prendre un exemple bien connu, Pétain, qui est à ce moment-là ambassadeur de France auprès du général Franco, où il a été nommé en 1938, Pétain est né en 1856.
Donc il a 84 ans.
Il a 84 ans. Il était à la veille de la retraite en 1914, à la veille de la retraite. Il avait 50 ans en 1906, le moment où on a réhabilité Dreyfus. Et c'est donc des hommes qui appartiennent réellement au 19e siècle, qui ont l'expérience de la guerre, mais de la guerre de 14-18, victorieuse, et qui ne peuvent pas imaginer qu'ils ont en face d'eux...
Des Rommel et des gens comme
des
ça.
Des Rommel, des Guderian. Ils ne peuvent pas imaginer encore plus gravement que l'Allemagne de Hitler n'est pas l'Allemagne de Guillaume II, qu'on n'est pas face à des Boches. Ce qui est classique, on a une vieille habitude de ce combat-là, 1870, 1914, la bataille de la Marne. On est face à des nazis ou à des gens qui acceptent le nazisme et qui sont forgés dans cette idée d'une revanche sur la France notamment, et puis des généraux qui ont moins de 50 ans.
Oui, alors vous parlez de l'âge des généraux, donc Weygand en a 74 aussi à ce moment-là. Et la situation militaire est d'autant plus explosive, et vous l'expliquez très très bien, qu'il y a un fossé énorme entre l'état de l'armée et de son commandement, et d'un autre côté, l'image que l'opinion en a.
Bien sûr, aux yeux de l'opinion française et de l'opinion internationale, la France dispose de la meilleure armée du monde. Elle a vaincu les Allemands, c'est une armée qui, là encore, essayons d'évacuer une idée fausse, c'est une armée qui est bien dotée en matériel. Il y a autant de chars français et anglais qu'il y a de chars allemands, il y a autant d'avions, autant de canons. Il est faux de dire que la défaite va être provoquée par une différence dramatique de matériel entre l'Allemagne et les alliés, la France et l'Angleterre. En réalité, il y a des matériels qui sont de très bonne qualité, qui sont en nombre suffisant, en tout cas qui sont tout aussi nombreux que le sont les chars allemands. La différence, elle s'explique par le point de vue stratégique. Et là, nous citons pour la première fois, je crois, le nom de De Gaulle. De Gaulle qui est à ce moment-là colonel, qui commande une division blindée, l'une des rares, un régiment de chars en tout cas, à Metz. Et malgré De Gaulle qui a publié de très nombreux textes, qui a essayé de rencontrer les hommes politiques, qui a tenté d'expliquer que la guerre qui vient, la guerre qui maintenant est ouverte, sera une guerre du moteur, de la machine, et qu'il faut en conséquence constituer des unités homogène de chars, des divisions blindées et non pas saupoudrées de tanks, les différentes divisions d'infanterie. Malgré tout cet effort, il se heurte à un refus d'admettre cela. Ça changera pendant la guerre, pendant les dernières semaines avant la débâcle. Mais pour l'instant, je dirais au mois de janvier, et nous en avons la preuve, quand il adresse à 80 personnalités un mémorandum en janvier, à la mi-janvier, dans lequel il explique une nouvelle fois quel va être le style de cette guerre, qui nous est donné par ce qui s'est passé en Pologne. Blitzkrieg, guerre éclair, bombardement de Varsovie, action des Panzerdivisionen, des divisions blindées. Quand il explique cela en disant qu'il faut absolument modifier la manière dont nous concevons la guerre qui est là, car la drôle de guerre, dit-il, n'est que le moyen de nous endormir, il ne reçoit aucune réponse d'aucune de ces 80 personnalités. Bien sûr, Paul Reynaud, qui est celui qui a porté le plus dans le milieu politique les idées de De Gaulle, Paul Reynaud est de son avis, mais il n'est absolument pas suivi. Encore un dernier mot sur cette conception stratégique. Au fond, le pacifisme de la société française, sa peur, on peut dire, ou son refus de la guerre, s'exprime dans la stratégie qui a été choisie. On a construit à partir de 1920, sous la direction d'un ministre de la Défense qui s'appelle M. Maginot, on a construit une ligne Maginot de forteresse face au Rhin, de forteresse qui s'arrête malheureusement au massif des Ardennes. Pourquoi s'arrêtent-elles ces forteresses ? N'a-t-on pas allé au-delà de la forêt des Ardennes ? Parce que l'état-major est persuadé qu'on ne peut pas traverser la forêt des Ardennes. Il n'y a pas de route, les chars ne pourront pas passer, et il suffit de quelques postes, de quelques, vous allez reconnaître le titre, de quelques balcons en forêt, pour reprendre le titre d'un roman vécu de Julien Gracq, qui montre comment il y a des postes dans la forêt où on ne s'attend pas du tout à voir les Allemands percer dans cette direction. On est persuadé qu'ils vont rééditer le plan Schlieffen de 1914, c'est-à-dire qu'ils vont envahir la Hollande, la Belgique, foncer donc à travers ces États neutres et essayer de foncer. Et puis il faudra refaire une bataille de la Marne et puis le processus se reproduira comme en 1914-1918.
Alors la drôle de guerre va s'achever le 10 mai et en 6 semaines c'est la débâcle, mais vous le dites très précisément, en fait dès le 12 mai se produit un événement tout à fait symbolique qui finalement éclaire la suite, c'est la chute de Sedan.
Ah oui, bien sûr, oui, parce que...
C'est très symbolique Sedan.
Il suffit de quelques, si vous voulez, d'abord les informations sur la nouvelle stratégie allemande existent, il y a des pilotes qui... des pilotes des avions d'observation français qui, par exemple, disent « Mais nous voyons sur 100 km des chars qui avancent, tous phares allumés sur les routes qui se dirigent vers les Ardennes. » On ne veut pas les croire. Et quand les faits sont là, quand on franchit la Meuse, quand les blindés s'avancent, c'est une surprise. Et en même temps, cette surprise, elle est redoublée par le fait qu'il n'y a pas seulement du moteur sur les routes, il y a aussi du moteur dans les airs avec ces attaques de ces avions particuliers qui bombardent en piqué, qu'on appelle les Stuka, qui en même temps qu'ils piquent et lâchent leurs bombes, font hurler des sirènes, ce qui suffit à désorienter, à surprendre des unités. Disons tout de suite que les unités, certaines d'entre elles en tout cas, les unes se décomposent, se désagrègent, reculent, refluent, marchent pendant des kilomètres, s'enfuient, on peut le dire, pour certains régiments, des régiments d'infanterie. Et au contraire, car, j'ajoute encore un mot, si ces régiments se désagrègent, c'est que précisément on est tellement persuadé que la bataille ne se livrera pas dans les Ardennes qu'on a placé des divisions de mauvaise qualité, de mauvaise qualité, moins entraînés, moins équipés, des soldats plus vieux dans cette région, et ce sont eux qui vont recevoir au contraire de plein fouet l'éclair de cette offensive allemande.
Mais vous rendez justice à la base de l'armée française, hein, c'est-à-dire en distinguant bien d'un côté les troupes et les officiers, d'un autre côté les généraux, et page 101, je lis ceci, « Dans la marée de la débâcle, des récifs de détermination, de courage et d'héroïsme surgissent ainsi. » Donc vous donnez le cas des victoires locales comme celle du colonel de Gaulle, mais vous parlez aussi du sacrifice des Spahis et vous parlerez plus tard des
Saumur.
Saumur, les gants blancs.
Saumur, absolument.
Donc,
mais
en fait, ça n'a pas du tout été une balade de santé pour les Allemands.
Ça n'a pas été. Il y a eu beaucoup de pertes du côté allemand, une trentaine de milliers de morts, si mes souvenirs sont exacts, et il y a eu près de 100 000 morts du côté français. C'est-à-dire que c'est une...
Il y a eu guerre.
Il n'y a pas eu simplement décomposition. Il y a eu décomposition de certaines unités, récif d'obstination, de courage et de combativité, là où les officiers, disons-le, ont tenu et ne se sont pas eux-mêmes enfuis. Et la guerre a été réelle, a été extrêmement difficile.
Il y a un épisode assez peu connu après la modification du gouvernement. Donc quand Paul Reynaud, dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 mai, modifie son gouvernement, il fait entrer le maréchal Pétain en tant que vice-président du Conseil. Quelques jours après, vous citez une lettre extraordinaire du général de Gaulle à Paul Reynaud le 3 juin.
Vous avez raison, c'est une lettre extraordinaire.
C'est extraordinaire cette lettre.
Allez-y.
Je donne simplement.
Vous l'avez sous les yeux.
Je l'ai pas en entier, mais j'ai cette phrase. Soyez Carnot ou nous périrons. De Gaulle, il faut quand même être piloté pour dire ça. Il est d'abord très lucide en plus.
C'est une lettre lucide, mais c'est une lettre aussi qui montre la détermination de Gaulle à assumer un rôle majeur. En gros, il dit à Paul Reynaud, écoutez, ça suffit. Hein. Si vous ne me nommez pas cette fois-ci à un poste décisif où j'ai un rôle à jouer, donnez-moi un commandement et qu'on n'en parle plus. Je vais sur le terrain. Et en fait, il pose sa candidature à un poste politique, un poste ministériel. Et effectivement, le 5 juin, quelques jours plus tard, alors que la situation militaire est déjà extrêmement difficile, de Gaulle va être nommé par Paul Reynaud à la fois général de brigade 2 étoiles à titre temporaire, et il va être nommé sous-secrétaire d'État à la guerre. Ce qui est un tournant capital, car cette décision de Paul Reynaud fait passer de Gaulle de l'état de militaire à l'état d'homme politique, de militaire, mais politique. Et cela, d'ailleurs, certains commentateurs le lui feront remarquer, certains amis, par exemple Georges Mandel, en lui disant « Vous êtes un homme neuf, mais vous êtes politique désormais, et ne démissionnez pas de ce poste, car il en a la tentation à un moment donné, démissionnez pas de ce poste de sous-secrétaire d'État, car dans les événements qui vont venir, le fait que vous soyez désormais un politique, avec une légitimité gouvernementale, va vous être tout à fait utile, décisif, vous allez pouvoir jouer un grand rôle. » Donc cette nomination de De Gaulle à un poste gouvernemental, appelons-le subalterne ou secondaire, va jouer un très grand rôle. Et d'autant plus qu'il est chargé par Paul Reynaud, et ça n'est pas rien, c'est même décisif, des relations avec l'Angleterre.
Alors dans les événements qui se produisent les jours suivants, le 14 juin, Paris capitule. En fait, Paris est ville ouverte. Comment les Français ont réagi ?
Écoutez, les Français, ça dépend. Alors, d'abord, avant les Français, avant même cette capitulation, les routes ont été envahies par des réfugiés, des gens affolés, et d'abord les Belges. Car il y aurait beaucoup à dire sur l'attitude du gouvernement belge, du roi de Belge, qui ne voulait pas entrer dans la guerre et qui a vite capitulé. Et les Belges ont commencé à s'enfuir, se souvenant de l'occupation de 1914-1918. Puis il y a eu les populations du Nord et chacun, enfin tous ceux qui ont vu des films ou des documentaires ou des images d'archives, se souviennent, ne peuvent pas oublier ces routes envahies par une longue colonne de réfugiés dans laquelle il y a à la fois des charrettes tirées par des bœufs ou des chevaux, il y a à la fois l'image classique, une femme poussant un landau. Il y a donc toute une population qui se déverse et cette population va être accrue à partir du 10-12 juin quand la certitude devient désormais évidente que Paris a été déclarée ville ouverte et Paris va être occupé par les Allemands et toute une partie, tous ceux qui peuvent se déplacer, non pas la population des quartiers populaires, car pour pouvoir se déplacer, il n'y a pas de train, ils n'ont pas de voiture, il n'y a pas de moyen de locomotion, donc les quartiers populaires resteront avec leur population, mais l'ensemble des arrondissements de l'ouest parisien et du sud de Paris vont se vider, si bien que les Allemands entreront pour ces arrondissements-là dans une ville qui est déserte, qui a perdu plusieurs centaines de milliers d'habitants.
Alors là, on est le 14 juin et le 16 juin, il se passe une chose étonnante. Vous le racontez en détail, comment Paul Reynaud se piège lui-même.
Oui, mais là, c'est très intéressant parce que vous faites évidemment allusion à sa démission de président du Conseil et au fait qu'il y a un candidat. Si vous voulez, pour bien comprendre, il faut dire deux choses. La première, c'est que Paul Reynaud est un grand parlementaire, que tous ces hommes politiques sont des parlementaires qui ont l'habitude de démissionner, de revenir sur la scène, la lenteur de la constitution d'un gouvernement. Et Paul Reynaud, quand il démissionne du gouvernement, président du Conseil, il est évidemment soumis à des pressions pour démissionner. Mais en réalité, ce qu'il pense, c'est « nous allons au fond, montrer que l'hypothèse d'un gouvernement présidé par Pétain est une hypothèse qui ne peut pas devenir réalité. Donc, je démissionne, il passera 48 heures, 72 heures, et puis je reprendrai, cette fois-ci, j'aurai les mains libres, je n'aurai plus cette opposition latente des milieux militaires, Pétain les incarnant, disant au fond, il faut cesser le combat, etc. Malheureusement, Paul Reynaud raisonne en vieux parlementaire, mais la situation n'est plus une situation normale. Pétain sort de sa poche une liste avec déjà un gouvernement constitué et Reynaud ne reviendra jamais au gouvernement, bien entendu.
Et alors, dès le lendemain, le 17 juin, Pétain annonce la couleur, ce texte que l'on connaît fort bien, c'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser les combats. À quoi va répondre le 18 juin l'appel du général de Gaulle ? Alors, votre livre le redit, mais trop souvent, on pense que l'appel du 18 juin est une réponse à l'armistice. En réalité, l'armistice n'intervient rien que 4 jours après.
Non, alors là, nous sommes vraiment dans le moment tournant, si vous voulez, sur plusieurs plans. D'abord parce que c'est l'arrivée au pouvoir du maréchal Pétain, et avec lui, se servant de lui, et en même temps, lui se sert des autres, de ceux qui le soutiennent, se servant de lui, tous ceux qui veulent en finir avec la guerre, bien sûr, mais même avec le régime républicain. Il y a donc cette intention ancienne. Moi, j'ai fait une thèse il y a très, 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 très longtemps, des décennies, sur l'influence que pouvait exercer l'ambassade de l'Italie fasciste à Paris avant la guerre. Et j'ai découvert des archives à Washington, notamment, que j'ai publiées dans un livre qui s'appelait « La cinquième colonne », enfin, il y a très longtemps, dans laquelle Laval, Pierre Laval, qui dit aux diplomates italiens « Écoutez, moi, j'ai dans la tête on mettra Pétain comme potiche au gouvernement et je serai derrière. Donc ce sont des textes de 1937-1938. Donc il y a cette intention, ça c'est le premier point.
Mais même un Végan était aussi partisan de la fin du régime.
Absolument. Le deuxième point important, donc il y a une conspiration, ce que de Gaulle appellera le pronunciamiento de la panique. Il y a ça. Mais de la panique et en même temps une intention politique très claire, avec un programme de gouvernement, traité avec les Allemands, etc. Deuxièmement, dans son discours du 17 juin, que, pour une fois, je suis témoin d'un événement dont j'ai encore le souvenir très précis, car j'avais 8 ans en 1940, hélas, mais enfin, je les avais, je réentends la voix depuis toujours, puis je l'ai réécoutée depuis, bien entendu, donc je ne sais pas si ce sont mes souvenirs ou si c'est, ou si c'est simplement le dépôt des différentes auditions de ce discours de Pétain, la voix chevrotante du maréchal Pétain, c'est dans l'honneur que je demande à l'adversaire d'arrêter les combats, etc., dans l'honneur entre soldats. Mais ce qui est dramatique, c'est la phrase que vous avez citée, il faut cesser le combat. C'est-à-dire que sans connaître les conditions dans lesquelles on peut cesser le combat, Pétain prononce le mot « il faut cesser le combat ».
C'est-à-dire une reddition sans condition.
Toutes les unités qui combattaient, et les hommes et les maires des villages ou des villes qui entendent ce propos, pour eux, la guerre est terminée. 17 juin, on ne se bat plus. Et quand, et là nous avons des cas très précis, j'ai écrit un petit livre à partir d'un cas très précis, qui s'appelait « Le dernier pont », je crois. Quand vous avez des unités qui veulent résister, qui veulent faire sauter des ponts, vous avez le maire du village ou le maire de la ville qui vient en délégation et qui dit « pas question hein ». Vous n'allez pas faire sauter la guerre, vous avez entendu, il faut cesser le combat. C'est-à-dire que là, cet épisode est important parce qu'il va y avoir, à ce moment-là, un arrêt des combats, des unités qui vont cesser immédiatement de se battre, et il va y avoir là des centaines de milliers de prisonniers. Jusqu'au 17 juin, il y a un nombre normal de prisonniers. À partir du 17 juin, les Allemands, avec une dizaine de soldats, disons, peuvent tout à fait capturer des milliers d'hommes qui ont pris à la lettre le discours de Pétain. On ne va pas continuer à se battre, puisqu'on arrête le combat, on arrête le combat. Et ça, c'est un point tout à fait capital. Et de Gaulle, qui va intervenir le 18 juin, son appel, je ne prétends pas l'avoir entendu, celui-là, je lui ai entendu l'autre, je vois encore mon père en train de pleurer, ma mère aussi, et moi aussi, par voie de conséquence, autour de ce grand poste de TSF, de télégraphie sans fil. Mais quand il intervient le 18 juin à Londres, il faut qu'il force la main un peu aux Anglais pour avoir le droit d'intervenir, pour pouvoir intervenir, de Gaulle se place précisément en opposition à cette idée d'arrêter les combats sans armistice, et en opposition aussi à l'armistice, et c'est là où il fait surgir de notre vocabulaire un mot qui existe déjà, mais auquel il donne sa puissance mondiale, je dirais, parce que ce mot va être adopté par l'ensemble des pays, c'est le mot de résistance. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas.
Alors ça, on est le 18 et
là, on est le 18. Et petit détail anecdotique, oui, mais qui montre que nous sommes quand même dans un climat très particulier, cet appel ne sera pas enregistré, car la BBC a utilisé son personnel et son matériel pour enregistrer aux communes le discours de Churchill. Et donc, ce que nous entendons comme appel du 18 juin, quand on le passe sur les radios, c'est un appel qui a été prononcé le 22 juin. Nous n'avons pas d'enregistrement de l'appel du 18 juin. Quand le lendemain, le 19 juin, de Gaulle est allé réclamer l'enregistrement, on lui a dit « mais il n'y a pas d'enregistrement, on n'a pas enregistré ». Donc il faut bien comprendre que nous sommes devant un cataclysme. L'Angleterre est une île. Quand je dis cela, je veux dire qu'elle est plus à l'abri. Puis nous n'avons pas évoqué la question de Dunkerque, de la capacité qu'elle a eue de faire récupérer des dizaines de milliers d'hommes, plus de 100 000 hommes, et les rapatrier en Angleterre. Mais la guerre n'est pas mondiale. L'Angleterre reste seule dans le conflit. Nous sommes donc dans une situation tout à fait tragique.
Alors le 18 juin, donc, cette petite flamme, le général de Gaulle, et le 25 juin, le discours probablement le plus célèbre du maréchal Pétain, « Je hais les mensonges qui vous ont fait tant de mal, la terre, elle ne ment pas, notre défaite est venue de notre relâchement, un ordre nouveau commence ». Et la première image…
Vous savez de qui a écrit ce texte?
Oui, Emmanuel Berl.
Emmanuel Berl, c'est-à-dire un intellectuel, oui, appelons-le de gauche, puisqu'il dirigeait la revue Marianne, et un intellectuel juif par-dessus, oui, le marché. C'est dire la confusion des esprits,
oui,
l'absence,
oui,
de lucidité aussi. Mm-hmm. Car à cette époque-là, il faut être visionnaire et un peu fou pour imaginer qu'on va pouvoir s'opposer à l'Allemagne. L'Allemagne qui a, oui, conquis l'espace de l'Europe continentale et qui n'a plus pour adversaire que l'Angleterre.
Alors l'un des passages les plus intéressants du livre, c'est justement lorsque vous faites un peu l'inventaire des visionnaires. De Gaulle, Churchill, c'est tout à fait étonnant. De jeunes types, pourrait-on dire, à Raymond Aron, par exemple, 35 ans, professeur d'histoire, qui a une phrase extraordinaire.
Je ne sais pas la phrase dans la tête.
La phrase, il dit « Si Hitler n'envahit pas cet été l'Angleterre, il a perdu la guerre. »
Oui,
35 ans, prof d'histoire.
Vous avez raison de parler de Raymond Aron et de ces jeunes gens, car il y a en effet deux visionnaires réels et qui ont des responsabilités différentes, mais qui ont des responsabilités, j'entends De Gaulle et Churchill, qui tous les deux disent au fond la même chose que je résume. D'ailleurs, De Gaulle a prononcé cette phrase devant Maurice Schumann, qui deviendra un de ses porte-paroles, puis ministre, puis académicien. Au fond, l'un et l'autre disent « Si Hitler ne débarque pas en Angleterre et si nous résistons, il a perdu la guerre. Car les États-Unis entreront dans la guerre un jour ou l'autre, car la Russie entrera dans la guerre un jour ou l'autre, étant donné qu'il y a une antinomie, quel que soit le pacte de non-agression, une antinomie totale entre le nazisme et le communisme. »
Et puis il y avait quand même la lecture de Mein Kampf. Quand même.
Et puis il y a la lecture de Mein Kampf.
Les plaines d'Ukraine.
En tout cas, donc, ça, ce sont les visionnaires. Et puis il y a, et là je renvoie au livre admirable de Daniel Cordier, qui a été le secrétaire de Jean Moulin, qui a 18 ans, à peine 18 ans, plutôt 17 que 18, mais enfin 18 ans, disons, qui est le fils d'une famille de la région de Bordeaux et qui est maurassien, qui est antisémite, affiché, qui est d'extrême droite. Quand il apprend que le maréchal Pétain va parler le 17 juin, il est persuadé que c'est un tournant décisif que Pétain va appeler au combat, et il lui suffit d'écouter ce discours dont nous avons parlé du 17 juin pour comprendre que désormais, Pétain ne veut plus se battre, et c'est une déception et un éclair de lucidité. Et lui, comme d'autres, Pierre Messmer, par exemple, qui est un jeune sous-lieutenant, ou le lieutenant Simon qui est avec lui, Yves Guénat, je cite Yves Guénat qui est toujours là, avec Cordier d'ailleurs, ils sont encore vivants, je dirais, heureusement, ou bien Jean-Louis Crémieux-Briac, ou d'autres encore, ne peuvent pas accepter cet effondrement, ne peuvent pas accepter cet armistice et commencent à résister dans leur tête, à organiser leur départ. Ils réussissent à joindre Londres et ils sont comme cela quelques centaines, bientôt quelques milliers, mais très peu nombreux, hein, à rejoindre De Gaulle à Londres.
Alors vous faites un rapprochement tout à fait étonnant, saisissant, une date, le 28 juin, deux événements qu'on n'avait pas l'habitude d'associer. D'un côté, Churchill, qui publie un communiqué pour dire « Le gouvernement de Sa Majesté reconnaît le général de Gaulle comme chef des Français libres ». Ça, c'est la petite flamme. Et d'un autre côté, Hitler triomphant dans Paris.
Le vendredi 28 juin.
Vendredi 28 juin.
C'est la couverture de mon livre, parce que je trouve que cette photo qui le montre au Trocadéro, devant la Tour Eiffel, avec une posture très martiale, entourée de son état-major ou de ses proches, Hitler voulait absolument visiter Paris. C'était son rêve, il le dit d'ailleurs à Speer, l'architecte qui est en même temps son confident, qui est un proche en tout cas. Il dit « je veux absolument à visiter Paris ». Et le vendredi 28 juin, il arrive au Bourget à 5h du matin, il y restera 7-8h, il repart un peu avant midi et il circule, il visite Paris, il visite l'Opéra, car le premier monument qu'il veut visiter, c'est l'Opéra.
Et là, vous dites quelque chose d'étonnant, oui, l'histoire du plan.
Absolument. Et il est guidé par un Français, par un homme de personnel de l'Opéra, qui lui fait visiter. Et à un moment donné, il dit « derrière cette cloison, vous avez une pièce ». Car il connaissait le plan parfaitement, le plan de l'Opéra. Et Speer est effrayé, car le soir même, il dit à Speer, très belle ville, Paris, « J'ai pensé longtemps qu'il fallait la détruire, mais finalement, nous allons faire de Berlin une capitale tellement extraordinaire que, après tout, ça ne sert à rien de détruire Paris. » Et Speer est effrayé, enfin, il écrit ça dans ses mémoires. Sur le moment, je ne sais pas ce qu'il a pensé, mais enfin, il dit avoir pensé avec effroi que Hitler pouvait envisager de détruire Paris.
Alors, il y a un événement auquel vous redonnez toute son ampleur quelques jours plus tard, c'est le 3 juillet, le drame de Mersel Kébir, et vous montrez à quel point ça a joué un rôle, disons, d'accélérateur dans le changement de régime en France. Enfin, les Laval et autres se sont saisis de Mersel Kébir.
Je ne sais pas si ça a joué un rôle. Je pense que le plan était déjà dans les têtes de Laval et de ses complices. J'emploie ce mot à dessein. Mais l'événement du 3 juillet est très, très important. D'abord parce que pour toute une partie de l'opinion française, je pense aux marins, je pense aux militaires, je pense à tous ceux qui ont au fond de leur tête depuis toujours un enseignement dans lequel l'anglophobie est toujours présent, si vous voulez. Et Pétain en jouera beaucoup en disant « je demande l'armistice parce que j'ai demandé aux Anglais d'envoyer des divisions et des avions et ils ne l'ont pas fait. Donc nous avons à défendre nos intérêts, les Anglais ont leurs propres intérêts et ils ne nous soutiennent pas. » Et le bombardement de la flotte française qui est amarrée dans la rade ou ancrée dans la rade d'Oran, Merselkébir, le 3 juillet, avec 1397 marins tués, plus de, des centaines de blessés, va donner comme ça une force à cette anglophobie qui va être très impressionnante et qui va jouer, non pas tellement sur le renversement du régime, le changement de régime voulu par Laval, mais parce que la France se trouve d'une certaine manière, enfin la France, les partisans de Pétain se trouvent d'une manière légitimée par ça. Mais c'est très important sur un autre plan, beaucoup plus important, c'est que Churchill, par cet acte, qu'il a du mal, non pas à assumer, mais qu'il a eu du mal à décider, et les marins anglais ont eu du mal à accepter de bombarder des bateaux immobiles, sachant très bien les pertes que cela allait provoquer, sachant très bien aussi que les marins français ont été leurs camarades pendant l'entre-deux-guerres, pendant la guerre de 14-18. En tout cas, par cet acte, Churchill montre sa détermination irrévocable d'aller jusqu'au bout, de ne jamais capituler. Car cet acte, c'est, vous voyez de quoi je suis capable ? Je suis capable de bombarder la flotte française.
Alors, concernant le général de Gaulle, vous citez une de ses phrases, « C'est un terrible coup de hache dans nos espoirs », mais vous ajoutez, « Mais en fait, il comprend les Anglais ».
Ah, tout à fait, et d'ailleurs, il le dit, il fait un discours qui est un peu tardif, il prend 5 jours, je crois que c'est le 8 juillet qu'il intervient, dans lequel il donne, enfin, il dit qu'à la fois, il fait état de sa souffrance, ce que vous venez de dire, mais en même temps, il dit, au fond, nous comprenons bien qu'à la place des Anglais, nous aurions fait la même chose. Car c'était la seule façon de s'opposer aux Allemands. Les Anglais ne pouvaient pas prendre le risque de voir la flotte française tomber entre les mains des Allemands, ce qui n'était pas du tout impossible, étant donné que dans les conventions d'armistice, il y avait l'obligation pour les Français, pour les flottes françaises, de se trouver dans des ports de la métropole, c'est-à-dire en fait sous la domination soit italienne, soit allemande. Car après, n'oublions pas un petit détail, marginal, le 10 juin 40, l'Italie de Mussolini est entrée en guerre et a ouvert les hostilités dans le sud-est de la France, mais ils n'ont pas progressé.
Alors donc, le 10 juillet, c'est la fin de la Troisième République et ça va aller très vite dans l'établissement d'un régime d'exception avec toutes les dispositions du 20 juillet. Enfin, là, c'est ce qu'on appelle l'ordre nouveau qui
non,
se met
d'abord,
en place.
D'abord, le 10 juillet est très important. On a choisi Vichy pour une raison purement matérielle, parce qu'il y a des hôtels. Et des hôtels nombreux qui peuvent accueillir les parlementaires et qui pourront accueillir le gouvernement de Pétain.
Les vous le dites d'ailleurs, ils aiment bien faire les gueuletons, les parlementaires, même à cette époque-là.
Ah oui, ça oui. Oui.
C'est quand même étonnant, quoi, on fait...
Oui, bon, enfin, en tout cas, on se retrouve entre soi. Ces parlementaires, c'est une classe politique où je regarde avec effroi, parce qu'elle ne comprend pas, pour une bonne part, ce qui est en train de se jouer. N'oubliez pas que c'est une classe politique qui a... Les parlementaires, sénateurs et députés ont été élus. Enfin, pour les députés en tout cas, c'est la Chambre des députés élue
Front
au moment du Front populaire.
Ouais, c'est ça. Ceux qui ont été Blum, au fond.
Exactement. Et c'est la même Chambre qui a 80 députés près, députés et sénateurs, les 80 qui ont refusé.
17 abstentions aussi. Hein,
oui, 17 abstentions. Accordent les pleins pouvoirs à Pétain. Les pleins pouvoirs à Pétain, c'est-à-dire la possibilité de bâtir une nouvelle constitution. Il est le chef de l'État. La République s'est terminée. Liberté, égalité, fraternité deviennent travail, famille, patrie.
Et le 20 juillet, donc, rétablissement des délits d'opinion, délits d'appartenance à une communauté. Enfin, on est dans une vraie dictature. Qu'on peut...
Dictature, le mot est peut-être un peu fort,
le
mais
mot est fort.
En tout cas, un gouvernement autoritaire qui ressemble beaucoup au gouvernement du général Franco en Espagne, plutôt qu'au gouvernement allemand. Ce qui est impressionnant, c'est que dès, vous avez d'ailleurs de citer la date, le mois de juillet, dès le mois de juillet, il y a des mesures qui ne trompent pas. Je crois que c'est le 22 ou 23 juillet 1940 qu'est pris une loi qui implique le réexamen de toutes les naturalisations qui ont eu lieu depuis 1927. C'est-à-dire que c'est déjà un premier pas et il suffit de quelques semaines, puisque les lois antisémites, les lois qui créent pour les Juifs un statut spécial, sont du 3 octobre et du 4 octobre 1940.
On y reviendra. Mais restons à ce spectacle de la fin juillet, qui est, c'est quand même un spectacle très curieux. La France du Nord, les 3/5 du territoire sont occupés. À Paris, certains font la fête. Dans toute cette zone occupée, le pillage allemand commence. Mais déjà, les premiers actes de résistance. Et alors qu'en Europe continentale, tout le monde est sous le contrôle de l'armée allemande, il y a ces actes de résistance en France et, élément étonnant, les communistes continuent d'appeler à la paix. Pourquoi ?
Ah, ça, c'est évidemment quelque chose qui a été longtemps dissimulé par les communistes et qu'on a mis du temps avant de l'examiner en détail, si vous voulez. Parce que le 23 août 1939, nous remontons le temps, nous sommes avant la guerre, Hitler et Staline signent un pacte de non-agression avec des clauses secrètes qui introduisent en fait un vrai partage de la Pologne. Une partie de la Pologne passe sous le contrôle soviétique. Et d'ailleurs, nous allons fêter, si j'ose dire, nous allons célébrer l'anniversaire du massacre de Katyn, puisque au mois d'avril 1940, la police politique, l'armée politique de Staline, le NKVD, exécute à Katyn plus de 10 000 officiers et notables polonais d'une balle dans la nuque pour liquider une opposition possible. Donc, on est allé très loin dans la collaboration et j'ai raconté dans un autre livre comment Staline a livré à Hitler un grand nombre de résistants allemands au nazisme, communistes le plus souvent, qui s'étaient réfugiés en Union soviétique. Et on les a livrés, ils étaient dans un goulag, car Staline se méfiait d'eux, bien qu'ils fussent anti-nazis et souvent communistes, allemands. On les a remplumés, on les a mis pour que leur aspect physique et leur force physique soient récupérés, et on les a livrés à la Gestapo. C'est ainsi qu'une femme dont j'ai raconté la vie, qui s'appelle Margaret Böber-Neumann, est passée directement du goulag à Ravensbrück. Ça montre à quel point on est allé dans la collaboration. Et en France, malgré le désaveu de quelques parlementaires communistes et de quelques militants qui ne comprennent pas, le Parti communiste va décréter que ce pacte germano-soviétique montre bien que la guerre contre le nazisme est devenue une guerre entre impérialistes, qu'il ne faut pas du tout y participer. Et on a des actes de sabotage de la part de jeunes militants communistes sur des fabriques d'armement. Là, nous sommes avant mai, nous sommes dans l'automne 1939. Rétablissons un fait d'actualité. Le jeune Guy Moquet, dont on a voulu faire lire la lettre, le jeune Guy Moquet, fils d'un député communiste, a été arrêté par la police française parce qu'il distribuait des tracts non pas appelant à la résistance, mais des tracts appelant à la condamnation de la guerre. Il a été choisi ensuite comme otage, il avait 17 ans, c'est un crime, la question n'est pas là. Mais vous voyez, voyez la situation, combien elle est ambiguë. Et nous avons la preuve, enfin maintenant tout ça est établi en détail, des visites effectuées par des délégués officiels du Parti communiste se rendant dans les deux ou trois jours qui suivent l'entrée des Allemands à Paris, le 14 juin, ils sont déjà là, ils se rendent à l'ambassade d'Allemagne à Paris, donc auprès des occupants, pour demander la possibilité de faire reparaître l'humanité qui avait été interdite par le gouvernement d'Aladier parce que cette humanité était hostile à la guerre, le journal L'Humanité communiste. Donc les communistes vont auprès des Allemands demander la possibilité de republier l'humanité. Les historiens ont mis à jour le carnet dans lequel les négociateurs communistes préparent leurs discussions avec les Allemands. Et il y a des phrases qui sont tout à fait accablantes, du genre, je ne cite pas entre guillemets, mais enfin on peut les retrouver facilement, du genre, nous avons été d'excellents adversaires de Léon Blum, le juif, nous l'avons condamné, nous sommes... Donc c'est montrer, si vous voulez, à la fois l'aveuglement communiste, leur compromission, mais c'est montrer aussi le désarroi des esprits. Parce qu'en même temps, vous avez des hommes, des communistes, comme Charles Tillon, par exemple, qui est déjà un responsable communiste, qui est un personnage relativement important de l'appareil communiste, qui lui appelle à combattre le nazisme, à combattre l'occupant. Donc toutes les familles politiques sont divisées, on est vraiment dans un abîme, c'est pour ça que j'ai appelé ce livre « De l'abîme à l'espérance ». Nous sommes dans l'abîme.
Alors, le changement de décor peut-être commence-t-il au mois d'août, car Hitler avait beaucoup hésité, il avait hésité entre l'invasion de la Grande-Bretagne et simplement le bombardement, il choisit donc la terreur par le bombardement, et ça commence donc le 15 août, il lance une grande offensive le 15 août, le 7 septembre il fera bombarder Londres, mais c'est un échec. Pourquoi ?
C'est un échec parce que, d'abord, Hitler a à l'égard de l'Angleterre une attitude assez étonnante. Quand les troupes anglaises qui servaient pendant la guerre, au mois de juin, au mois de mai, qui étaient sur le sol français, se sont retrouvées enfermées dans la poche de Dunkerque, Hitler a arrêté les blindés. Il n'a pas voulu que les blindés allemands attaquent cette poche. Intention politique, il tient des propos très élogieux pour l'Empire britannique en disant, au fond, l'Empire britannique, moi je ne suis pas contre l'Empire britannique. Au fond, il rêve d'une sorte de paix de compromis avec l'Angleterre. Et il estime qu'il y a des possibilités que dans l'entourage de Churchill, ce qui n'est pas faux, Et aux communes, il y a des hommes politiques qui sont favorables à une paix de compromis avec Hitler.
C'est pas le cas de Churchill.
C'est pas le cas. Non, c'est pas le cas de Churchill. C'est pas le cas de la majorité. C'est pas le cas des travaillistes. Mais il y a quelques hommes politiques qui sont favorables à l'arrêt de la guerre, l'Angleterre étant seule face à cette Allemagne victorieuse. Et donc, il retient ses blindés. En même temps, il a peur d'une contre-attaque française. Il n'imagine pas à quel point, en cette fin mai déjà 1940, l'armée française est incapable de mener une contre-attaque décisive contre l'Allemagne, contre les forces allemandes. Mais en même temps, il est victime aussi de la vanité de Göring, qui commande la Luftwaffe et qui dit « Moi, je vais régler cette question et nous allons régler le problème de l'Angleterre. » Et les amiraux allemands font comprendre à Hitler qu'il n'y a pas la possibilité d'organiser un débarquement. Ils ne sont pas maîtres de la mer, qu'il faudrait rassembler des milliers de petits esquifs et que ça ne passerait pas. Donc l'Angleterre va rester, elle ne va pas être envahie. Et dès ce moment-là, la guerre va changer de sens parce qu'on passe à une nouvelle étape qui est celle de la terreur que vous avez évoquée. Je ne crois pas que l'intention de Hitler ait été, dans les premiers bombardements, de bombarder Londres. D'après ce que j'ai appris, ce à quoi je suis arrivé comme conclusion, c'est que le premier bombardement sur Londres est dû à une erreur de navigation de la part des bombardiers allemands, d'un bombardier qui s'est égaré. Mais en réciproque, Churchill ordonne immédiatement le bombardement de Berlin.
Il ne va pas arrêter, lui.
Non, et Hitler non plus, d'ailleurs. À ce moment-là, on est entré dans une mécanique, celle de la terreur, comme vous l'avez dit. Et si les Anglais gagnent, finalement, c'est pour deux ou trois raisons. Une raison technique, d'abord. Un réseau radar. Le réseau radar, je l'ai appris récemment, je n'ai pas pu le mettre dans ce livre parce que je l'ai appris après coup. Les travaux réalisés par les ingénieurs français sur le radar ont été communiqués aux Anglais le 9 mai, à la veille de l'offensive. Et ils ont joué un très grand rôle dans le perfectionnement du dispositif britannique. Donc il y a d'abord le radar. Il y a deuxièmement, et ça c'est capital, l'héroïsme du peuple britannique. Un patriotisme réel, profond, instinctif, qui rassemble autour de Churchill la totalité du peuple britannique avec partout des retraités qui organisent des postes de veille, qui transmettent les informations. Quand on voit passer une flotte de bombardiers, on téléphone, il y a tout un réseau au sol qui implique une mobilisation absolue de la population qui en même temps accepte les milliers de morts que provoque ce bombardement terroriste. Et la troisième raison, c'est une très belle phrase de Churchill qui l'évoque en disant, elle est très connue, jamais un si petit nombre d'hommes, je vais l'éclairer, n'aura tenu entre ses mains le destin de l'humanité tout entière.
Ce petit nombre, Spitfire, là,
voilà, ce petit nombre d'hommes, ce sont les pilotes de Spitfire. C'est-à-dire qu'en effet, vous avez des scènes qui sont rapportées partout, de Spitfire qui sont abattus au-dessus de la Manche. Si on récupère le pilote, dans les heures qui suivent, il est à nouveau dans un avion. C'est-à-dire que c'est vraiment une combativité, une qualité, et en plus, les Spitfire sont souvent dirigés par ce radar qui les met sur la ligne d'arrivée des flottes de bombardiers. Donc, la pression terroriste ne va pas être suffisante pour faire plier l'Angleterre. Alors, avec une phrase de Churchill que je cite de mémoire, « Si nous devons partir au Canada, nous partirons au Canada ».
Alors, il y a donc d'un côté cet héroïsme anglais et en
ce
face...
Patriotisme.
Et vous montrez comment, en France, il y a finalement les deux. Il y a d'un côté ce Pétain hésitant qui ne sait pas très bien ce qu'il veut faire et qui va aller à Montoire le 24 octobre avec cette poignée de main effarante, donc Hitler-Pétain. Et puis d'un autre côté, et vous avez cette phrase, « À l'automne, au fond de l'abîme, la France se redresse ». Et un événement dont vous parlez, dont presque personne ne parle et dont vous faites presque l'égal du 18 juin, c'est le 11 novembre.
Revenons un peu sur l'attitude de Pétain et des hommes politiques français. C'est d'abord un défaut de lucidité. Les hommes politiques français, ils ont leurs intentions politiques, je l'ai dit, c'est un pronunciamento, on liquide la République, on va enfin créer un ordre nouveau. Mais tout cela est légitimé à leurs yeux par le fait que pour eux, la guerre est finie. Pour eux, l'Angleterre va capituler. Et qu'au fond, leur objectif, de ce point de vue-là, ils raisonnent en français qui défendent les intérêts de la France. Le but de la France, désormais, du gouvernement de Vichy, c'est quoi? C'est d'être le meilleur disciple de Hitler sur le terrain européen. Donc, puisque Hitler va gagner, puisque l'Allemagne va gagner, il faut être à côté de l'Allemagne. Mais sans aller jusqu'à faire la guerre à l'Angleterre. Pétain ne veut pas faire la guerre à l'Angleterre, mais il veut collaborer. Et c'est la rencontre de Montoire, je choisis la voie de la collaboration.
Et alors, le 11 novembre, face
alors,
à
le
ça...
Le 11 novembre est évidemment une date importante pour les Français et pour les Allemands. Car n'oubliez pas que l'armistice de 1940 a été signé le 24 juin dans la clairière de Retonde, dans le même wagon où les généraux allemands avaient été obligés le 11 novembre 1918 de signer leur capitulation. Hitler avait tenu à ce que ça se passe au même endroit, dans le même wagon, et il est assis lui-même dans le fauteuil du maréchal Foch. Bon, c'est donc très important ce 11 novembre. Des consignes sont données par la BBC, par De Gaulle, par la France libre, en disant qu'il faut manifester ce 11 novembre. Et en effet, le 11 novembre est une journée que je crois très symbolique et très forte. C'est le matin, on voit apparaître sur les Champs-Élysées une file de Parisiens que personne n'a mobilisé, qui agissent eux-mêmes de cette manière. Ils ont peut-être écouté la radio anglaise. En tout cas, ils vont déposer des fleurs sur la statue de Clémenceau. Et surtout, le 11 novembre dans l'après-midi, vous avez des lycéens, des étudiants qui manifestent Place de l'Étoile, puisque c'était le nom qu'elle avait, autour de l'Arc de Triomphe. Les Allemands tireront, on ne sait pas s'il y a eu des tués ou pas. Certains parlent de plusieurs centaines de tués, je ne crois pas. En tout cas, il y a eu de très nombreuses arrestations, des lynchages par des Allemands. Et c'est bien le signe, si vous voulez, que après avoir trouvé les Allemands corrects, ça c'est... Pendant les premiers mois, les Allemands corrects à la table du Café de la Paix, Place de l'Opéra, on passe à autre chose. D'abord, les restrictions arrivent. Chacun peut constater que la France est pillée, que les Allemands, qui touchent une indemnité d'occupation considérable, énorme, achètent à n'importe quel prix aussi bien des soieries que du champagne. Donc, il y a ce sentiment d'injustice, d'inégalité, cette pression, cette présence, cette pression de l'Allemand. Et puis, il y a ce ressort patriotique qui surgit, notamment chez les jeunes.
Alors, vous montrez comment, petit à petit, Marcel Pétain est pris dans les mailles du filet et comment témoignent les conditions. Alors, vous révélez des choses tout à fait étonnantes. En d'autres circonstances, on aurait pris ça pour une véritable farce. C'est la façon dont Laval est renvoyé et la réaction allemande. Enfin, c'est hallucinant ce qui s'est passé là.
Oui, parce que...
En décembre. Parce c'est le 14 décembre ou le 15 décembre, quelque chose comme ça.
Oui, ou le 17, enfin je ne sais plus. En tout cas, c'est le 14. En tout cas, il y a évidemment une rivalité au sommet du pouvoir entre Pétain qui, malgré son âge assez avancé, plus de 84 ans, tient à avoir la réalité du pouvoir, et Laval qui tient lui aussi à être le maître d'œuvre de cette politique. Chacun, évidemment, faisant assaut de... courtisanerie auprès de Hitler, car la visite le 24 octobre de Pétain à Montoire, la poignée de main, elle s'explique aussi par la volonté de ne pas se laisser doubler par Pierre Laval, qui lui-même a vu, dans les heures précédentes, a vu Hitler. Et à un moment donné, donc, Pétain va renvoyer Laval, l'arrêter, et en effet, nous avons une réaction très brutale des Allemands, qui vont venir à Betz, Otto Abetz, l'ambassadeur allemand à Paris, qui va venir en automitrailleuse à Vichy et obtenir la libération de Laval. C'est donc à la fois une farce, mais une farce tragique.
Une farce tragique et, je dirais, presque d'autant plus tragique que c'est Darlan qui prend la première place. Et Darlan, le jour de Noël, il se passe également quelque chose de faramineux avec Hitler. Enfin, ce que vous racontez, on a vraiment du mal à croire ça. Enfin,
mais pourtant, c'est comme ça. Il se fait traiter d'un effet très très mal par Hitler. On a là vraiment un groupe d'hommes qui a joué son va-tout, qui croit l'avoir joué, qui veut défendre cette politique de la collaboration et qui accepte l'inacceptable. Comment imaginer, par exemple, c'est toujours une mesure qui m'a paru tellement symbolique, que le gouvernement de Vichy est un ambassadeur à Paris, qui est occupé, en zone occupée, un ambassadeur qui est de Brinon, un ambassadeur à Paris, et accepte chaque fois avec humilité, parce qu'il y a l'idée que on est vaincu, on est coupable, et il faut donc se soumettre au vainqueur, c'est la loi.
Alors je voudrais terminer par la dernière page de votre livre, et c'est un texte ahurissant, le message du maréchal Pétain le 31 décembre. Il dit « Nous aurons faim, la France continue, bonne année mes chers amis ». C'est pathétique, quoi.
Oui, c'est pathétique.
Alors, pour vous, quand la guerre, au fond, a-t-elle vraiment basculé? Est-ce quand les Allemands ont renoncé à envahir l'Angleterre? Est-ce quand les Allemands n'ont pas pu envahir l'Angleterre? Est-ce quand les Allemands ont décidé d'attaquer la Russie? Ou est-ce quand les Américains sont entrés en guerre? Ou est-ce un peu des trois?
Non, je crois que la décision capitale, enfin le fait sans lequel rien n'aurait été possible, ça a été la non-cessation des hostilités par l'Angleterre. Le rôle de Churchill a été décisif. Car il y avait dans son entourage, je l'ai dit mais je le répète, il y avait au fond des hommes politiques qui étaient ceux qui avaient signé Munich en 1938, qui s'étaient entendus avec Hitler. Et là, le patriotisme anglais, le patriotisme obstiné, féroce, farouche de Churchill a été décisif. Le deuxième élément, ça a été évidemment l'entrée. Alors, et j'ajoute que cette non-capitulation de l'Angleterre entraînait les États-Unis dans une assistance à l'Angleterre, solidarité anglo-saxonne. Mais la décision prise dès le mois d'août, dès le mois de septembre, on commence à faire des plans, Hitler commence à demander à l'OKH, c'est-à-dire l'état-major, de mettre sur pied des plans d'invasion de la Russie en 40. Donc, dès ce moment-là, la guerre bascule. Car n'oubliez pas que dans cette Deuxième Guerre mondiale, 93% des pertes de la Wehrmacht ont eu lieu en Russie. C'est la Russie qui a été l'abîme pour l'Allemagne.
Donc l'erreur de Napoléon, on revient à Napoléon.
En tout cas, la négation même de la pensée de Hitler qui était de dire, c'est là où l'idéologue a joué un mauvais tour au stratège, qui avait dit « jamais plus nous ne ferons une guerre sur deux fronts ». C'est une folie d'avoir à la fois un front russe et un front à l'ouest. Et là, en fait, il s'est enfermé dans cette réalité.
Vous dites qu'il a fallu attendre les années 60 pour que le traumatisme de la débâcle soit à peu près maîtrisé en France. C'est curieusement le moment où le général de Gaulle revient au pouvoir. Alors, est-ce que c'est une façon pour nous de demander pardon au père ? Parce que 58, c'est le retour du général de Gaulle. Et vous dites que c'est la fin du traumatisme, ce sont les années 60. C'est que...
Mais si j'ai dit ça, je me corrigerai parce que je crois que ce traumatisme, en effet, il est pour des raisons générationnelles, une nouvelle génération, des gens qui n'ont pas connu la guerre, etc., qui apparaissent, c'est bientôt 68, une autre génération. Donc le traumatisme a perdu son côté aigu, sanglant, je dirais. Mais, en fait, je crois que le traumatisme de 40, cet effondrement de toute une société, des institutions, cette collaboration, ces lettres anonymes, tout ça continue à peser dans notre inconscient, dans notre réalité. Et nous en parlons et nous voyons que cette année 2010 va être une année où on va célébrer l'appel du 18 juin, on va revenir sur ces événements, parce que c'est encore présent. Oui, ça reste une étrange défaite. Une étrange défaite où les aspects politiques sont capitaux.
Vous qui êtes à la fois un historien et un humaniste, vous y croyez, vous, au plus jamais ça ?
Moi, je crois à une seule loi de l'histoire, je vous l'ai peut-être déjà dit, c'est la loi de la surprise. Donc, en même temps, comme disait peut-être Lénine, l'histoire ne repasse jamais les plats une deuxième fois. Comme disait Marx, la deuxième fois, c'est en farce. J'espère donc qu'il n'y aura pas de répétition, mais la surprise est toujours possible. Ce que je crois, en tout cas, c'est que la fragilité de la société française telle qu'elle apparaît à travers ce cataclysme de mai 40 reste une réalité. Nous sommes une société fragile et une société qui peut en effet s'effondrer. On l'a vu par exemple en mai 68, brusquement se décomposer. Elle s'est recomposée ensuite, hein, mais elle peut se décomposer. Je crois que la vie démocratique est une mince couche superficielle au-dessus d'un océan violent et que la violence de l'océan peut toujours ressurgir avec force.
Et avec toujours en arrière-plan une dimension tragique de l'histoire ?
Ah oui, je crois même quand je suis pessimiste, j'ai une phrase dans laquelle, enfin je me répète souvent que l'homme est un anthropophage.
Max Gallo, merci. Je rappelle le titre de votre ouvrage publié chez Ixo, 1940, de l'abîme à l'espérance, un récit sans fioritures, mais terriblement révélateur d'une des années clés du siècle passé. Merci à tous et à toutes d'être avec nous.
Merci.